Bonjour, je m'appelle Alexandra Siosberg et je rénove du mobilier de brocante que je vends sur mon site petitebelette.com. Bienvenue sur le podcast Old is the New Gold qui propose des échanges avec des personnes qui sont amoureuses de la Chine, adeptes du recyclage et du upcycling et qui utilisent des matériaux anciens ou recyclés pour rénover et décorer. Ils nous expliquent comment ils ont fait pour sourcer la matière première, la rénover et l'intégrer dans leur intérieur. Je suis convaincue depuis bien longtemps que le beau est dans l'ancien et que nous avons tous intérêt à rénover nos intérieurs en sublimant ou en réintégrant des pièces anciennes. Je me suis rendu compte que beaucoup pensaient comme moi, mais qu'au moment de rénover, ils se décourageaient et succombaient vite à la facilité de choisir des matériaux neufs qui sont souvent plus facilement accessibles et parfois moins chers. Mais le résultat est toujours plus lisse et moins chaleureux que si on intègre des matériaux qui ont une... J'ai eu envie d'aller à la rencontre de personnes qui recyclent des matériaux anciens pour leur rénovation. À travers ces échanges, j'espère recueillir des techniques, des astuces pour pouvoir aller au bout de nos envies et de faire du neuf en utilisant des matériaux anciens et ainsi être au plus proche d'une conscience écologique et esthétique qui nous parle. Ce podcast s'accompagne de vidéos avec des images sur le site petitebelette.com, rubrique tuto et conversation. Vous y trouverez des tutos et une masterclass pour apprendre à rénover vos meubles de brocante. Et vous pouvez me suivre sur Instagram sur @belettepetite et @oldisthenewgold-6podcast. Bienvenue et bonne écoute! Aujourd'hui, je rencontre Annabelle des Penat Home que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Elle est décoratrice d'intérieur spécialisée dans le faire du neuf avec du vieux, du compte @lespenathome sur Instagram. Nous avons il y a quelques années fait plusieurs lives ensemble pour parler de rénovation en utilisant de l'ancien. Ça s'appelait faire du neuf avec du vieux. Il était donc évident que je lui tende mon micro sur ce sujet à nouveau aujourd'hui. On a tous suivi ses travaux et la réalisation de ses pénates à Reims il y a quelques années, un lieu unique qui a créé un style et en a inspiré plus d'une depuis. Nous allons donc parler en détail de ce qu'elle y a réalisé, de son amour des choses anciennes, de son parcours de vie, de sa recherche de maison actuellement et de ses projets à venir. Bonjour Annabelle.
Bonjour Alex.
Je suis trop contente de t'avoir
Moi aussi,
micro.
Je suis très contente.
Donc, je t'ai rapidement présentée, mais est-ce que tu peux te présenter avec tes mots et nous dire un peu comment tu en es venue à la déco ?
Alors moi, je ne suis pas décoratrice à la base, hein, je suis directrice artistique et j'étais responsable marketing et développement et communication à l'époque. Un métier que je fais toujours en plus de cette activité d'archi d'intérieur ou décorateur d'intérieur. Je ne sais pas quelle est la différence entre les deux. Mais donc comment je suis venue à ce métier-là ? Bah, écoute... vu que j'ai déménagé 37 fois.
37 fois.
J'ai toujours de mes petits appartements d'étudiante jusqu'à aujourd'hui. En fait, j'ai toujours, même avec rien, refait mes intérieurs.
Mais tes parents faisaient ça ou c'est
absolument
c'est pas.
Je suis l'ovni de la famille.
Ouais, c'est vraiment. C'est venu.
Bon, sauf que mon père, quand même, est ingénieur en électricité. Mm-hmm. Il avait une boîte dans le bâtiment dans ça. Mais mm-hmm. c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout cette sensibilité de l'ancien, ni l'un ni l'autre.
D'accord.
Mon père habite. Une maison plutôt très contemporaine au fin fond du Médoc,
okay, ouais.
donc rien à voir. Et je sais que quand j'étais jeune, enfin mes premiers appartements, comme j'avais pas, on est étudiant, on n'a pas un sou,
ouais.
Je faisais déjà, je récupérais tout ce que je pouvais récupérer et je customisais. Pour faire un canapé, je faisais déjà de la mosaïque, je faisais des pots, j'ai fait je sais pas combien de dessous de plat pour ma famille, des pots.
T'as toujours été créative.
Ah, vraiment, ouais. J'ai toujours fait ça et c'est vrai que tu vois, je voulais faire une école de déco, je voulais faire les beaux-arts, et bon, en même temps, et bon, j'ai fait une école de commerce donc rien à voir, mais tout. Mais donc du coup, j'exprimais ma créativité dans mes intérieurs. Et
d'accord.
Vraiment, c'était important pour moi de me sentir bien chez moi et de créer un endroit qui me ressemble à chaque fois. Donc, il fallait que je modifie tout.
Et la brocante, c'était plutôt parce que c'était pas cher ou c'était vraiment, tu avais une attirance pour la brocante et les choses
Non, mais c'est surtout que j'ai toujours aimé avoir quelque chose que les autres n'ont pas.
Des choses uniques.
Voilà, des pièces uniques. Ça, j'essaie toujours de créer. C'est pour ça que j'aime la création, justement, de faire quelque chose qui n'existe pas.
Ouais.
Et donc, les objets ou les meubles... j'aimais bien ne pas pouvoir retrouver ça chez les autres.
D'accord. Donc, dès que tu arrivais dans un endroit, tu l'investissais, tu trouvais ce qu'il fallait pour le rendre un petit cocon à toi, confort.
Donc je pouvais récupérer des choses, je dis, dans la rue, sur des brocantes, sur bus. Et puis... Donc voilà, je refaisais mon canapé avec du tissu. J'avais une super... Quand j'étais étudiante, j'avais... les agrafeuses, là, tu sais. Et c'est ça. Ma grand-mère, elle m'avait offert une machine à coudre pour mes 18 ans. Ouais. Donc, tu vois, je faisais mes coussins, enfin, des trucs...
Ouais.
Et je sais que le papa de mes filles, mon premier cadeau qu'ils m'ont offert, c'est une perceuse, quoi, tu vois. Donc...
Il avait bien compris que tu étais bricoleuse dans l'âme.
Il avait bien compris.
Et donc après, quand tu étais étudiante et tout, tu as beaucoup déménagé, mais après, même en fondant une famille et tout, tu as tout le temps eu envie de déménager, d'avoir des...
Oui. Alors après, moi, j'habite à Reims, mais je suis bordelaise. Vous êtes donc,
de Bordeaux, ouais.
Donc à Bordeaux, j'ai beaucoup déménagé. Et quand je suis arrivée à Reims... premier appartement, j'étais logée par le boulot. Après, donc, tu redéménages, tu prends un appartement. Après, j'ai repris un autre appartement parce que je m'installe avec le papa de mes filles. Et puis après, j'ai voulu avoir un autre appartement. Donc là, c'était notre premier achat tous les deux. Premier achat, première rénovation. Et puis, une fois que la rénovation était finie, et c'était un lieu que j'adorais, je crois que c'est le lieu que j'ai le plus aimé de tous les lieux où j'ai habité, ce lieu-là, je suis tombée enceinte et j'avais des jumelles. Donc, il a fallu qu'on déménage, et donc redéménagement. Et donc là, on a acheté une grosse maison où on a créé notre entreprise aussi à l'intérieur, qu'on a complètement rénovée. Et puis
ton mari, il était bricoleur aussi ?
Pas du tout. Alors lui, mais pas du tout. Alors, c'est-à-dire que même un clou, c'est compliqué, quoi. Donc
c'est toi qui as tout mené. Tu as trouvé des artisans, tu as fait beaucoup toi-même parce que tu mets tout le temps la main,
pâte. Ça m'a toujours intéressée. Je suis tout le temps fourrée avec les artisans. Ouais. Ça, j'adore. Ouais. C'est vraiment, j'aime bien. Aller chercher le pourquoi du comment, comment ça fonctionne, comment ils font, ça c'est quelque chose. Mais ne serait-ce que pour pouvoir aujourd'hui en parler aussi avec les clients, leur expliquer, ça c'est vachement important aussi d'expliquer comment ça se passe.
Et toi, j'ai l'impression que ce que tu adores, c'est vraiment le processus transformatif en fait, parce que si à chaque fois tu as déménagé, c'est un peu parce que t'as toujours un nouveau projet, t'as une nouvelle idée.
Mais j'aime bien faire autre chose, oui. Je sais que une époque, moi j'aime bien tout ce qui est industriel et atelier, tout ce qui est atelier d'artistes, les volumes, j'aime bien ça.
Et qu'est-ce qui t'attire là-dedans?
Je sais pas, mais je suis très 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 sensible à ça, vraiment.
Est-ce que c'est par rapport à l'activité qu'il y a eu avant, qu'on a créé des choses dans ces lieux, ou c'est vraiment l'architecture, c'est le fait que ça soit haut de plafond?
Alors le volume, ça j'aime, les volumes. J'aime pas qu'il y ait plein de pièces, je trouve que ça sert à rien. Mais j'adore les volumes.
Et la lumière aussi, carrément.
Les verrières, je suis une très très grande fan de verrières, ça tout le monde le sait. Je pourrais en mettre partout, vraiment ça fait rentrer la lumière.
Donc la lumière c'est vraiment un élément hyper important dans la déco.
Ouais.
Et du coup, tu disais, tu t'es pas vraiment formée en fait, c'est venu.
Je suis complètement autodidacte sur cette activité, même si il y a combien de temps maintenant ? Il y a 15 ans, je crois, j'ai dû faire une formation décoration feng shui que franchement, j'ai pas... La partie déco, je trouve que j'avais rien... Ça s'apprend pas, Je pense que l'expérience, on apprend 10 000 fois plus que...
Et la sensibilité, que tu as par rapport au lieu et par rapport à...
C'est vrai que moi, je ne saurais pas faire tous les lieux. Si on me demande... Il y a des lieux que qui ne me parlent pas, je ne sais pas... Mm. Après, c'est vrai que je fais aussi dans ce que j'aime et dans mon style. Mm. C'est qu'une fois que donc, j'ai eu cette maison donc, avec le papa de mes filles, bien évidemment, j'ai eu envie de trouver autre chose. Et c'est surtout qu'à Reims, en fait, on était invité un soir chez des amis, enfin des amis que je ne connaissais pas, moi, des amis du papa de mes filles. Et on arrive dans cet endroit, et là, la personne ouvre la porte, et en fait, c'était un ancien atelier qu'ils avaient rénové. Et je suis là, oh, mais ça existe, ça, à Reims? Et donc, bien évidemment, pourquoi on est allé chez eux à partir de là?
Tu pensais qu'à ça?
J'ai pas arrêté d'embêter mon mari avec ça à l'époque pour lui dire non, mais là il faut qu'on déménage. Donc en fait, je suis partie à la recherche d'un bâtiment plutôt industriel. Et en fait, c'est ce que je cherche encore aujourd'hui parce que je ne l'ai jamais trouvé.
D'accord.
Ou des choses qui ne sont pas à vendre. Enfin, j'ai jamais trouvé. C'est un projet à peu près. Que j'ai trouvé un peu comme ça, mais en tout cas on n'a pas vraiment trouvé, mais on a quand même déménagé dans un autre style, quelque chose qui était plus contemporain, qui était un loft, qui était un loft avec là des volumes. Mais en revanche, moi là j'ai été super super mal dans cet endroit, trop boîte, trop blanc, c'est difficile, c'est rigolo de dire ça, que je dis ça, hein, trop blanc, mais
pas d'âme
voilà, exactement, ouais, absolument pas d'âme. Et là là j'ai été très très mal, et tellement mal qu'on a divorcé, donc j'ai été très 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 mal, j'en ai fait une dépression. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse, tu vois, d'aller bien au fond du projet d'une maison, parce que les maisons ça nous représente, mais comment on peut aussi aller bien bas,
vrai, et trouver. Donc c'est peut-être aussi pour ça maintenant, enfin, tu vas nous en parler plus en détail, mais du coup tu prends du temps pour trouver ton nouveau lieu.
Oui,
ça prend beaucoup de temps, et c'est peut-être justement parce que tu as un peu peur de pas faire le bon choix.
Mais c'est-à-dire que au final je me rends compte que j'ai beaucoup acheté par compromis, par défaut, parce qu'à Reims, bon là effectivement aujourd'hui j'habite Reims, mais je pourrais très bien habiter ailleurs, hein, c'est pas ça le problème. C'est ce que je reste parce que voilà, il y a mes filles, avec le papa de mes filles et sa famille, enfin on est tous très soudés, donc je reste pour ça. Mais en même temps, voilà, mes filles aujourd'hui elles sont grandes, et que peut-être que c'est aussi le moment de que je prenne mon envol ailleurs, et donc c'est pour ça aussi que souvent je vis des choses ailleurs.
Ouais.
Mais typiquement ce que je recherche, je ne le trouve pas.
Mais est-ce que tu sais exactement ce que
je sais exactement ce que je veux.
D'accord.
Exactement.
Ouais. Et c'est très différent de ce que tu avais, ce que tu as eu.
Alors oui et non. Oui et non. Au final, c'est un mélange de plein de petites endroits dans lesquels j'ai habité.
D'accord. Donc t'as,
parce qu'à chaque fois dans ces endroits-là, j'essayais quand même de créer la chose que je voulais.
D'accord.
Tu vois. Bon, je n'ai quand même habité que dans des lieux qui avaient une histoire. Part ce fameux lieu-là qui a été très destructeur pour moi, mais sinon j'ai toujours habité dans des lieux qui avaient une histoire.
Ouais. Et donc ça veut dire que quand tu fais le bilan de tous les endroits dans lesquels tu as habité, tu te dis tiens, à cet endroit ça me parlait vraiment, et donc tu as fait un peu le puzzle, et tu te dis si j'arrive à trouver un lieu qui a toutes ces choses positives. Mais du coup, là, tu mets la barre très, 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 très
haut. Non, mais je mets la barre trop haute. Je le sais. Même mes filles me le disent tout le temps. Maman, t'es trop difficile.
Ouais.
Donc, je ne trouverai peut-être pas.
Ouais. Et c'est des choses qui, pour toi, ne sont pas des choses que tu peux créer. C'est des choses qui doivent exister. Genre, tu peux nous donner des exemples?
Si, il y a des choses qui peuvent créer, mais le charme d'un atelier d'artiste, trouver un endroit avec des volumes, je parle de volume, voilà, c'est compliqué. Après, effectivement, tu peux trouver un endroit avec des volumes et tu peux le transformer. Alors, je me suis même posé la question d'acheter une grange, par exemple.
Ouais.
Mais c'est pareil, il n'y a
c'est
pas
un peu une boîte.
C'est un peu une boîte. Et finalement, finalement, c'est assez simple. C'est pas si compliqué que ça à aménager. Il n'y a pas les contraintes d'un lieu.
Oui, oui.
Et moi, ça, j'aime bien ça, les contraintes.
T'aimes les contraintes. Ouais. T'aimes pouvoir adapter l'existant et en faire quelque chose qui va te parler, qui va créer une ambiance, qui va créer une émotion.
C'est ça. Exactement.
Etc., Est-ce que j'aimerais bien qu'on reparle de, qu'on parle de la rencontre que tu as faite avec les Penat Home, qui est un peu le lieu qu'on connaît tous parce qu'on a commencé à.
Oui, c'est le lieu où j'ai créé ce concept-là. Ouais.
Voilà, on a commencé à. Enfin, tu as commencé un peu à montrer ton travail en créant ce
que je n'osais pas faire avant.
Voilà.
J'ai trop peur.
Mais c'est chouette que tu l'aies fait parce que du coup, non seulement tu as partagé ce que vous faisiez, mais je pense, enfin, comme je disais dans mon intro, je pense que tu as vraiment créé un style qui a. Et j'aimerais bien que tu nous expliques comment c'était au départ, comment tu es arrivé à ce lieu, comment. Tu peux nous raconter comment c'était quand tu as trouvé ce lieu, comment tu es arrivé à ce lieu.
Alors, donc ce lieu, du coup, je cherchais un lieu à rénover. Mm-hmm. Bien évidemment, donc j'avais vendu mon ancienne maison, donc j'étais dans un entre-deux.
Entre-deux, oui.
Et donc je cherchais, et donc là toujours très difficile de trouver ce que je recherche. Déjà des lieux avec une histoire à rénover, c'est difficile. Après Reims, c'est aussi une petite ville, donc il n'y a pas énormément de lieux comme ça. C'est une ville qui a été détruite
pendant la guerre,
à 80%, donc on est vraiment dans le style art déco, mais il y a beaucoup de reconstruction aujourd'hui.
Ouais.
Bon, donc c'est trouver des lieux à rénover qui sont pas achetés par les promoteurs en amont, c'est un peu le parcours du compte. Une chance énorme, alors je crois à ma chance, coup de téléphone d'une amie qui me dit on va mettre des choses en accession, il y a peut-être des choses qui pourraient t'intéresser. Et elle travaille dans une société d'HLM. Mm-hmm. Donc je lui dis, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Mais bon, je vais toujours voir. Et donc là, je visite une maison à rénover qui ne me plaisait pas du tout, qui était sans volume, petite. Et je lui dis, non, là, je ne peux pas caser mon bureau, mes filles, mes affaires, machin. Et je lui dis, ça ne m'intéresse pas et ce n'est pas assez. C'est trop petit. Et à la personne, je dis, mais vous n'avez pas autre chose à vendre? Qu'est-ce que vous allez mettre en accession? Et la dame me dit, oh si, on a le bâtiment à côté, mais c'est nos anciennes archives, mais là c'est très pourri, franchement ça va pas vous plaire. Je dis, ah bon, mais non, c'est ça que je cherche. Moi, plus c'est pourri, plus j'aime. Et donc du coup j'ai fait un forcing parce qu'elle n'avait pas les clés, le truc s'était abandonné, enfin ça avait été squatté, ça a été un atelier d'artiste à une époque, enfin un truc de fou. Et donc.
Mais toi, tu t'es dit, c'est anciennes archives, c'est un peu comme. C'est sûrement un peu industriel ou
alors j'étais toujours dans mon truc, je me dis des archives, synonymes, industriel, du volume,
une histoire.
J'ai fait le forcing pour qu'on retrouve, enfin, qu'on ouvre la porte pour aller voir ce truc, parce que c'était surtout ça. Et finalement, ça a mis beaucoup de temps, et j'ai réussi à voir le. J'ai rappelé la personne qui me dit, j'ai oublié de vous appeler, j'ai une visite cet après-midi à 15h, mais si vous voulez demain. Mais je dis, mais qu'est-ce que vous faites à 14h? Donc elle me dit, rien. Je dis, donc on peut faire les visites à 14h. Elle me dit, ok. Et donc j'y suis allée à 14h et à 14h20, je lui ai dit, j'achète. Et là, elle me dit, c'est pas vous qui décidez parce que ça doit passer en commission par rapport à votre projet. Alors là, un peu panique à bord parce que je voulais absolument cet endroit. Parce que, en fait,
t'es rentrée là-dedans et tout de suite, t'es dit...
Ah oui, mais je suis rentrée là-dedans, il y en avait partout parce qu'il y avait encore des bouts d'archives, des imprimantes par terre. C'était aussi leur magasin, il y a eu des feuilles, ça avait été squatté.
Il n'y avait pas de lumière, je crois, non ?
Pas de lumière, tout était cloisonné, fermé.
Ouais,
tout était fermé, on ne pouvait pas ouvrir les volets. La grande pièce où on... La grande pièce à vivre, en fait, ça s'était fermé complètement.
Mais tu voyais qu'il y avait une cour, tu as vu qu'il y avait
rien. Je voyais rien du tout parce que la cour, je l'ai créée.
Tu as créé la cour, oui. Et donc tu t'es dit, j'achète quelque chose où de toute façon il n'y a pas de fenêtre.
Oui.
Mais je vais en faire quelque chose, c'est oui. ça, tu t'es dit ça.
Oui, alors en plus il y avait un mélange, et c'est ça que j'aime, que, alors, et là ça commençait à toucher un peu, à me parler, c'est-à-dire que ce lieu-là, il y avait un mélange d'anciens, donc c'était une vieille maison rémoise, ici on appelle ça des particuliers rémois, qui avait servi d'archive, donc il n'y avait plus de salle de bain, plus de cuisine, il n'y avait rien, mais il y avait le style de cette maison, on voyait bien, bon, il n'y avait plus les portes non plus, mais on voyait bien les boiseries existantes, qui restaient un peu. Et il y avait cet autre côté, beaucoup plus industriel, qui était cette espèce d'atelier... une espèce de pièce qui avait été un atelier d'artiste, et là bien évidemment que moi dans ma tête je ne pouvais pas passer à côté, et finalement j'ai eu beaucoup de chance parce que le rendez-vous de 15h c'était un promoteur, donc c'est moi qui ai eu le lieu,
donc tu as eu le lieu parce que ils ont préféré que...
c'est ça.
Et donc à partir de là, donc tu avais un lieu complètement.
À partir de là, une
tout
fois
le monde
que
se serait enfui en courant, mais toi, tu as eu la projection assez rapidement.
Oui, alors c'est souvent assez ça sur les lieux que j'achète. Tu vois, c'est comme le lieu que j'avais acheté avant. Ça, c'est pareil. C'était un lieu que personne ne voulait. Un volume très bizarre, et c'est pareil, il n'y avait pas de fenêtre qui donnait sur la rue, sur ce lieu d'avant, c'était pire que celui-là, et moi dès que j'étais rentrée, pareil, il y avait des volumes, et j'ai trouvé ça génial, et finalement ça a été un lieu où on a créé un patio, tu vois, comme au Maroc, on tournait autour, et un lieu qui était baigné de lumière, qui était aussi assez fabuleux dans son style. Alors là, beaucoup de béton, j'adore ça,
très
béton.
Brut.
Très brut. Alors ça, c'est vrai, j'avais réussi à récupérer tout ça, et ça, c'était chouette. Et donc, à chaque fois, j'ai le même processus. Une fois que je signe le compromis, enfin, je sais que c'est pour moi, la maison, ben là, je ne dors pas pendant...
Et ouais, c'est complètement en alerte.
Moi, je travaille la nuit. Enfin, c'est mon esprit qui travaille, mais c'est la nuit. Alors là, ça y est. En fait, je fais comme les animations SketchUp, tu sais, qu'on envoie à nos clients. Finalement, en fait, je rentre dans la maison et là, tout se construit. Dans ma tête, ça fonctionne comme ça. Ouais. Et c'est ça qui m'anime, quoi.
Vraiment. D'accord. Et donc, t'es partie de quoi dans ce lieu? Ça a été quoi le premier point sur lequel t'as travaillé? C'était la pièce principale?
Le premier point, c'était cette grande pièce.
Fallait que tu crées de
sans lumière, parce qu'en fait, je vais pouvoir mettre le nez dehors, quoi. Même si on était en centre-ville, hyper bien placé. On avait une minuscule cour de 15 mètres carrés, enfin minuscule au bout de la maison. Enfin bref, moi je voulais pas de ça. Mais en fait, cette ouverture, cette structure, j'ai travaillé dessus, on a beaucoup discuté. Et en fait, un matin, je me réveille. Là, j'avais un papier à côté de mon lit parce qu'on l'a laissé. Je dis, ça y est, ceci, c'est comme ça que ça va être. Et c'est comme ça que ça a été. Voilà, et c'est super.
Donc tu t'es dit, on va enlever un toit, parce que c'est ça.
Ouais,
que vous
on va ouvrir
créé,
le
hein,
toit.
C'est ça,
ouais. On va ouvrir
tu
le toit.
Tu savais qu'il y avait rien au-dessus.
Non, au-dessus c'était vide.
C'était un toit plat. Et tu t'es dit, je vais enlever ce toit et je vais créer.
Découper le toit, ouais.
Découper le toit, créer une verrière et donc un patio. Extérieur.
Et là, c'était mon éclate parce que je pouvais avoir
une énorme
verrière qui faisait 9 mètres de long. Que j'ai dessiné, j'ai travaillé je ne sais pas combien de temps pour faire ce truc-là. Parce qu'après, bien évidemment, une rénovation comme ça, après, tu résonnes aussi en coût. Et il y a des choses sur lesquelles, dans une rénovation, il y a des choses. Parce qu'il y a le coût quand même qui est là. Et moi, je dis toujours, il y a des choses sur lesquelles on peut faire des économies et il y en a d'autres non.
D'autres non. Donc, la verrière, c'était le pôle principal de cette pièce.
Pour moi, le plus important, c'était la verrière, la porte d'entrée. Mm-hmm. La porte d'entrée de la maison. Ça, c'était très, très important.
La verrière, tu l'as faite faire ?
Oui, sur mesure.
Sur mesure, et tu t'es basée sur une verrière ancienne. Comment tu as fait ?
Alors, en fait, au départ, sur cette verrière, j'ai travaillé... au départ, j'ai fait venir un ferronnier.
Tu voulais la faire en métal ?
Oui, je voulais la faire en métal, comme à l'ancienne. Et le ferronnier, je lui ai dit, je te laisse carte blanche sur le dessin. Au départ, ce qui était particulier, c'est que... l'idée, il fallait qu'on puisse donc aller dehors. Mmh. Et puis c'est surtout que dans cette pièce, on n'avait pas de fenêtre qui donnait sur la rue. Ou... Mmh. Donc la problématique, c'était que au départ, je voulais des petites fenêtres qui s'ouvrent, tu vois, un peu partout. Mmh. Et je voulais pas des gros montants. Mmh. Je voulais que tous les montants soient identiques. Mmh. Sauf que ça, on peut le faire sur des verrières qui restent à l'intérieur d'une maison.
Quand tu as du double vitrage.
Voilà, avec du double vitrage, c'est compliqué. Mmh. Donc, tous ces facteurs-là, c'est compliqué. Et en même temps, bon voilà.
C'est après, pas esthétique.
C'est pas esthétique. Ou c'est des coûts. Alors, ça, avoir le truc au carré, c'était pas possible. Mmh. Alors, après, j'ai reçu le devis de la verrière du ferronnier. Et j'ai fait glouc parce que ça a été très très cher.
Très, très cher.
Mais c'est surtout qu'en plus, à Reims, il fait froid.
Ouais.
Et donc, j'avais un gros souci de pont thermique.
Ouais.
Donc, du coup, je me suis tournée vers le bois. Mm-hmm. Et donc là, c'est pareil. Donc, grosse étude sur de comment faire cette verrière. Donc là, c'est une société qui fait que du sur-mesure aussi. Mm-hmm. Donc, c'est la première fois qu'ils faisaient ça.
Eh ouais. Quoi, une verrière aussi grande, tu veux dire
En fait, ils faisaient... Alors, c'est une société qui... Ils sont spécialisés dans les bâtiments historiques. Donc, ils sont habitués à faire tous les détails de moulures, des choses comme ça sur les menuiseries.
Ouais.
Sauf que là, moi, je voulais des verrières avec une double porte au milieu, mais je voulais des espacements. Tout était pareil, tout soit aligné. Enfin,
Les contraintes.
Ouais. Et au bout des 9 mètres, en plus, il y avait encore une porte. Enfin, on avait ouvert, il y avait encore une porte. Qu'on ne voyait pas obligatoirement tout le temps.
Et tout ça en double vitrage.
Mmh, et tout ça qui rentre dans mon budget.
et tu te dessins, c'est toi qui l'as dessiné ou tu t'es basé sur
Non, pas du tout. Moi, ce que je voulais, c'était des espacements, comme à l'époque, pas très larges, mais qui aient une cohérence avec cette double porte du milieu.
D'accord.
Voilà. Et en fait, la base, je suis partie d'une base d'un atelier d'artiste. Quoi.
Ouais.
C'est toujours pareil. Hein.
Ouais.
Donc j'ai dessiné, j'aurais dit voilà, je veux ça. Et donc ma petite porte qui s'ouvre, ma petite fenêtre qui s'ouvre, ça n'a pas été possible.
Ouais.
Mais sinon, j'ai presque eu ce que je voulais.
D'accord.
À l'époque.
Ouais. Et t'as utilisé quoi comme bois?
C'est du bois exotique en fait qu'ils utilisent. Ouais.
C'est plus.
Ouais.
Mais de toute façon,
déjà, c'est plus
la
dur.
Peindre,
Oui. Ouais. Elle était peinte, oui. Donc,
elle était déjà peinte.
Ouais, ouais, ouais.
Et donc, ils ont installé ça. Et t'as des Velux au-dessus?
Dans cet espace. Donc là, ils ont installé ça. Donc, on a refait la maçonnerie. On a fait une maçonnerie pour accueillir tout ça. Et au-dessus, donc sur la toiture, qui est un toit légèrement pentu, pas plat. Il y avait des sky domes, tu vois ce que c'est comme ouverture, ces sky domes qu'on met dans des trucs industriels.
Ouais, c'est un plafond un peu en verre, c'est ça?
C'est pas en verre en fait, c'est de plastique, enfin un truc un peu plus épais. Et donc il y avait ça, et bien évidemment, vu qu'on isolait tout, il fallait enlever ça.
Ouais.
Et donc là, on a contacté l'entreprise Sky Dome. Et ils faisaient en fait des sky domes triple pot. Donc finalement, on a eu juste à changer en fait les trois sky domes avec des structures plus isolantes.
Quand tu dis triple pot, c'est-à-dire un peu comme du double triple vitrage.
Exactement.
Quoi, c'est ça?
En fait, sur chaque étage, il y a de l'air dans chaque étage.
Donc en fait, vous avez gardé quasiment le truc d'origine, sauf qu'il était plus
isolant.
On
a gardé l'origine plus isolant et du coup, on a refait l'étanchéité quand même de la toiture.
Okay.
La toiture, le coût le plus cher de la maison, mais qui...
Ah ouais.
Enfin, d'une maison, hein, la toiture,
c'est un poste... C'est une fortune t'es un peu obligé.
Ah, c'est la première chose à faire, le toit.
Pas, ouais, là, t'as pas pu y échapper.
Le toit, il y avait des choses qui étaient en bon état. Là,
d'accord,
comme on a ouvert et tout ça, il fallait refaire... l'étanchéité, fallait refaire. Il y avait quand même... Enfin, la maison, elle était vieille, donc... il y avait quelques travaux de restauration. Et puis
ce bâtiment, c'était des anciennes archives, mais il y avait aussi un autre bâtiment qui était joint à ça ou pas, parce que vous avez fait les appartements que vous avez loués, ça c'était autre chose?
Alors, c'était... non, ça c'était donc du coup cette première partie de la maison. qui était donc une maison plutôt de 1920, tu vois.
Ouais.
Donc on appelle ici donc des particuliers et moi, tout en hauteur. Donc il y avait rez-de-chaussée, premier, second.
Okay.
Et après, donc il y avait cette grande pièce. Et après, il y avait un autre bâtiment qui était sur un étage.
D'accord.
Mais c'est surtout qu'au départ, moi, j'étais trop contente d'avoir acheté ça. Mais c'est vrai que je focalisais surtout sur le volume du bas.
Oui.
Et après, je m'étais dit, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça ?
De tout cet autre volume,
voilà.
Ouais.
Voilà.
D'accord. Ah oui, donc au départ, c'était pas ton projet.
J'ai jamais eu ce projet-là.
C'est venu plus tard, en fait.
Ouais. C'est jamais eu ce projet-là parce que je me suis posé... Okay. Là, je me suis posé beaucoup de questions de savoir qu'est-ce que j'allais faire de toutes ces pièces.
D'accord.
Tu vois, j'avais ma prof de yoga qui cherchait une salle. Alors, je m'étais dit, pourquoi pas. Mais après, j'ai logé des gens dessus. Après, je me suis dit, créer un espace de coworking. C'était un peu le truc à la mode à l'époque. Créer des espaces de coworking.
D'accord.
Ça, non. Et puis, en fait, au final, c'est... Voilà, c'est venu comme ça.
C'est venu pendant que vous faisiez vos travaux. Tout d'un coup, vous avez commencé un peu à investir ces appartements. Tu en as créé des super jolis appartements.
Oui, et puis en fait, c'est comme la décoration changeait. Je me suis dit, bon, ben voilà, alors on va créer des univers avec la décoration qui change. Et puis après, je me suis dit, ben, pourquoi pas les louer, enfin faire découvrir ça aux gens.
Ouais.
Et puis qu'ils pourraient même venir acheter, etc. Mais c'est vraiment venu au fur et à mesure.
D'accord.
Et
jusqu'à ce que ça devienne un vrai concept, un concept.
Oui, alors au départ, au départ, ça a beaucoup tourné dans ma tête parce qu'au départ, je m'étais même dit, je vais décliner ça un peu partout. Mmh. Donc aussi des univers, enfin qui parlaient. J'ai eu mon compte qui était piraté et du coup, j'ai changé de nom et je me suis dit qu'en mettant le mot homme, parce que moi, j'aime bien les pénates. Mais parce que j'ai toujours dit quand je rentre à Bordeaux, j'ai toujours dit, je rentre dans mes pénates. Et je trouvais ça tellement. Je voulais créer un endroit où les gens se sentent bien chez nous, chez eux, enfin se sentent comme chez eux. Et c'est ça, c'est quelque chose. Je mets homme qui veut dire maison. Vu que j'avais des articles à l'étranger, tu vois, je me suis dit, ça fait, on parle.
Et ça ne pouvait pas être les pénates tout court.
Oui, mais
pas
là,
être
ça,
libre ou
là ça existait déjà.
Ouais, c'est ça.
Parce que du coup. Il y a plein de petites pénates là qui se sont construites autour. Et ça, c'était. Alors que moi, quand j'ai cherché un peu partout, il n'y avait aucune pénate qui existait quand j'ai créé. Donc c'était un peu dommage.
Ouais.
Je trouve ça un peu dommage. Mais après, voilà, c'est.
Ouais.
C'est comme ça. Après, aujourd'hui, rechanger de nom, c'est dommage aussi.
Non, mais c'est très bien. C'est très bien les pénatomes. Tout le monde voit que c'est toi. À partir de quel moment vous avez commencé à investir les appartements à louer, vous aviez déjà terminé le reste
sur cette rénovation, ce qui a été bien et en même temps une source de stress, parce que quand on achète quelque chose, enfin je sais pas toi, mais bon, on est tous un peu comme ça, quand on achète quelque chose, on a envie de l'avoir tout de suite.
c'est sûr.
Sauf que moi, sur ce cas-là, comme en fait je passais en commission et que c'était long parce que c'était de l'administratif, etc. La maison où j'ai créé les pénates, je l'ai visitée le 3 juillet, je crois. Et en fait, j'ai été propriétaire que début janvier.
Ah oui, d'accord.
6 mois.
Ouais, donc j'ai eu du temps pour...
j'ai eu du temps pour mûrir le projet, être au taquet du début. Et ça veut dire que le jour où je sortais de chez le notaire, où j'avais les clés, il fallait que tout le monde attaque.
Ah ouais.
Donc finalement, la priorité, c'était de faire la partie habitation. Mm-hmm. Et les appartements, tu vois, ça a été terminé un an après, quoi.
D'accord, ouais. Et donc, vous avez fait quoi exactement dans...
Tout.
Ouais, absolument tout.
Alors, dans cette maison, qui avait donc une partie ancienne et une partie un peu plus industrielle, il n'y avait plus de porte.
Ouais.
Pas de porte. Même la porte d'entrée, la pauvre, était dans un état... Puis, il n'y avait plus de porte. Il y avait encore les boiseries d'époque, mais... les entourages de portes étaient là, les bâtis étaient là, mais il n'y avait plus les portes. Il n'y avait pas de cuisine, pas de salle de bain, plus d'arrivée, strictement rien. Donc là, il a fallu, il faut mettre des portes, mais moi c'était hors de question que j'aille mettre des portes planes. On a retrouvé dans la première partie de la maison au grenier quelques portes qui devaient appartenir à cette maison. Donc après, l'idée, ça a été de chiner...
Donc, tu as chiné toutes les portes de la maison.
Toutes les portes.
La porte d'entrée aussi?
Non, la porte d'entrée, non, ça c'est important. Par contre, je l'ai fait faire un peu chiante, la dame. je l'ai fait faire, par exemple, sur mesure, mais presque à l'identique avec des décors comme celle comme l'ancienne, et même la grille qui est intégrée dedans a été chinée.
Elle a chiné la grille.
Mais souvent là dans les portes que je leur refais faire aujourd'hui sur des projets, quand on change, ils me récupèrent la grille de la porte d'origine et qu'on réintègre et où on met une petite fenêtre.
Parce que du coup, tu gardes quand même quelque chose de.
On garde quelque chose de la maison. Et puis elle est en. Elle
en super bon état, jolie. C'est ferronnerie à l'ancienne. Et donc je me rappelle d'avoir suivi, comme beaucoup, vos travaux. Et vous avez refait tous les parquets des appartements, ça je me rappelle.
Mais tout, mais même tout, la rambarde des escaliers qui n'existait plus.
Ah ouais.
Il n'y avait plus de rambarde.
Donc à chaque c'était de la fabrication ou c'était. Vous ne l'avez pas chiné quand même, la rambarde?
Non, la rambarde, ça, c'est le menuisier.
Le menuisier. Donc, à chaque fois, tu reprenais des modèles anciens. Comment tu fais?
Oui, alors, en fait, c'était juste un bout de rambarde. Ah, parce que le reste...
Donc, après,
le reste, donc, du coup, l'idée, moi, à chaque fois, l'idée pour la rambarde, c'est qu'il refasse... Comme c'était sur deux étages, il y en avait d'autres intermédiaires. Donc, c'était qu'il refasse à l'identique la même rambarde sur le départ.
Ligne d'origine, il y avait quoi?
Les choses d'origine, les boiseries des murs.
D'accord.
Et puis, les trois portes qu'on a récupérées dans le grenier.
Sinon, tout le reste, vous avez chiné. Par exemple, votre cuisine... Vous l'avez créé complètement avec des comptoirs et des
alors,
meubles.
Alors, la cuisine, ça a été créé autour d'un meuble de mercerie qui avait été chiné. Parce que la cuisine, c'est pareil, je ne voulais pas d'une cuisine... Enfin, j'ai jamais fait de cuisine standard, qu'on retrouve dans le commerce. Mon ancienne cuisine, c'était l'ancienne maison, c'était une cuisine qui était toute en béton, avec des portes qu'on avait fabriquées en bois, Donc là, je voulais pas refaire la même chose parce que c'était un autre style. Et donc là, effectivement, on a tourné autour de ce meuble de mercerie. Et puis c'est surtout qu'en plus, l'entrepreneur s'était trompé dans une cote. Et donc la cuisine, elle devait pas tout à fait être comme ça. Mais c'était planté. C'est d'un mètre. Donc c'est un gros plantage sur des cotes qu'il m'avait données. Donc par exemple le frigo qui devait être dans cette partie de la cuisine finalement a migré fait sur la pièce d'en face qui est devenue une arrière cuisine.
D'accord.
Voilà.
Ah, c'est grâce à cette erreur que l'arrière cuisine a été conçue.
Non, c'était déjà prévu l'arrière cuisine, mais elle devait pas être comme ça.
D'accord.
Donc effectivement. Une erreur plus des contraintes a fait que c'est devenu comme ça.
Voilà.
Et parce que voilà, en plus on est un peu dans le passage, c'est toujours cette problématique de fenêtres qui ne sont pas bonnes, enfin où il y en a pas ou pas au bon endroit.
T'as dû t'adapter à ça.
Et puis le meuble de mercerie, tu vois, c'est des meubles de métier, donc tu connais
les contraintes.
Les contraintes et même les avantages, c'est beau, mais il y a beaucoup de contraintes.
Ouais.
Donc, là, dans ce meuble-là, c'était pas très profond.
Ah oui, en plus.
Donc c'est bas aussi. Ouais. Et c'est surtout que dans ce meuble, il y a un truc que j'adorais. Parce qu'à l'endroit où l'évier aurait dû être le mieux placé, il y avait une espèce de tirette avec une grande planche,
Je vois.
Et je voulais pas la condamner. Ouais. Et tout le monde disait, non, mais là, c'est là qu'il faut qu'il aille, l'évier. Je dis, ah non, mais là, c'est pas possible. Et plus loin, c'était la place de la plaque, sinon il n'y avait pas la place de la plaque. Et donc, du coup, je l'ai mis carrément
sur le côté.
Et c'était pas le meilleur endroit, mais en même temps, je voulais tout ça à cause de cette tirette.
À cause de la tirette que tu voulais conserver.
Dont je me suis servi trois fois.
Elle avait le mérite d'être là.
Oui, c'est ça. Et ça, je voulais pas. Je préférais condamner un tiroir que cette tirette.
En fait, le côté esthétique et tu conserveras toujours ces éléments-là faveur de pratique.
Ah oui.
En général, les amoureux des choses anciennes, c'est le cas.
C'est le détail qui change tout.
Enfin, c'est le détail qui change tout. Et c'est tellement triste de se dire, oh ben non, non, mais ça, on l'a condamné parce que c'était pas pratique. Bah, ouais, c'est quand même tellement dommage.
Ben ouais.
Et donc, pour revenir, je voulais que tu nous parles des parquets, parce que je m'en rappelle d'avoir suivi tout le travail que vous aviez fait, phénoménal, sur les parquets. Donc, il y avait des tapis, de la moquette au départ, vous avez tout
alors, les parquets, alors moi, c'est ça, je fais une part, enfin, ce que je veux dire sur les parquets, c'est que... il faut pas avoir peur, un parquet ça se récupère.
Ouais, c'est ça.
Et là en l'occurrence, du parquet, il y en avait pas partout, puisque le bas c'était que d'une dalle béton, tout le long, voilà, c'était une complexité un peu particulière aussi. Et donc il y en avait dans les étages, les appartements, le premier étage, alors là il était tout noir, rempli de peinture, mais très noirci par le temps, la saleté, etc. Par contre, au deuxième, c'était plus compliqué parce que là, il y avait carrément un réagréage, une moquette collée. Ah oui. Donc, ça, c'était...
Plusieurs couches, quoi.
Ouais, c'était plus compliqué.
Mm-hmm. Et donc, quand vous avez vu ça, ça t'a pas fait peur? Tu t'es dit, de toute façon,
ne t'inquiète pas, on peut tout récupérer. Donc, moi, tant qu'il me dit, oh, t'inquiète pas, je suis d'accord. Je me dis, allez, on y va. Donc, c'est vrai que sur ce chantier, sur cette partie parquet, j'ai aussi beaucoup appris parce que, tu vois, mes anciennes maisons où il y avait du parquet qui était très bien, ou alors, moi, ce que j'aime bien quand je crée, c'est je posais toujours du parquet sur l'embourde. Donc, c'était une création.
Ouais.
Et
tu utilisais des parquets anciens ou c'était
ça dépend, mais sinon non, du parquet que je faisais faire chez un menuisier.
Ouais.
Ouais.
D'accord. Et quand t'as un parquet comme ça qui a son temps et qui est absolument dégueulasse, tu commences par quoi? Est-ce qu'il faut sur le principe que de toute façon tu peux le récupérer?
Moi, je pars du principe qu'on peut le récupérer.
Même s'il y a des défauts, des machins,
après, s'il y a des trous, tout ça... Mais c'est pareil, même les trous. Enfin,
ouais,
ça serait
les trous,
tout,
ça se répare.
Tout se répare.
Et que ça vaut tellement la peine de...
Alors, moi, recouvrir un parquet de... Bon, après, c'est du travail, hein, je conçois. C'est du boulot, mais... C'est du boulot, mais quand même, un beau parquet, il n'y a rien de tel.
Ah bah c'est clair.
Il fait partie de la maison. Enfin, c'est génial. Ouais. Moi, je trouve ça génial.
Ouais. Donc, c'était quoi les étapes? Tu peux nous
les étapes qui sont un peu... les étapes, bon, faut tout nettoyer, tout bien dépoussiérer, etc. Et après, on a un super appareil qui s'appelle une ponceuse.
Avant la ponceuse, je me rappelle, vous aviez rainuré entre chaque lame.
C'est vrai que sur un des parquets, quand c'est pas recouvert ou protégé, après il y a toute la crasse de l'époque.
Ouais.
Alors nous, on fait ça, effectivement, on avait tout gratté parce que l'aspirateur n'enlève rien. Après, on peut utiliser, les petits souffleurs d'air là avec un décompresseur, ça on n'avait pas non plus.
Ouais. Donc ça a été... qui enlève en fait
voilà.
toute la poussière.
Alors sinon on a tout. Enfin là et puis bon c'était quand même même ça c'était bien collé.
Ouais,
quoi. Donc là la crasse était bien. je pense que ça faisait vraiment très très longtemps que le ménage n'avait pas été fait.
Ouais.
Donc ça c'était très très collé. Donc là c'était vraiment on a raclé quoi. Vraiment toutes les rainures.
Ouais. Et après la ponceuse vous avez loué une ponceuse.
Vraiment une ponceuse à parquet, la ponceuse à parquet et la ponceuse
d'encre,
voilà. Et puis, tu ponces avec les trois étapes de grains différents, et si c'est pas nickel, faut refaire une passe, faut pas... Mm-hmm. Souvent on me demande, et je dis, faut pas avoir peur, vous allez pas passer à travers.
De toute façon, il y a de l'épaisseur,
exactement.
Donc, tu y vas tant que c'est pas net,
recommences.
Oui,
faut y aller, ouais.
Et donc ça, c'était un parquet en pain.
Alors, ce côté-là de la maison, c'était en sapin.
En sapin.
Ouais, c'était en sapin. Donc, c'est très mou, le sapin, faut le savoir.
Ouais.
Donc, c'est pour ça qu'on met un fond dur. pour durcir le bois comme avant la finition.
Ouais, parce que ce qui se passe, c'est que les pores du bois sont très ouverts par le ponçage et le nettoyage.
Mais c'est un bois aussi qui est beaucoup moins dur que le chêne.
Ouais, qui est
tendre. c'est pour ça que dans certains appartements, moi j'ai vu que dans un appartement, c'était des bureaux avant et il y avait plein de petits trous au sol et en fait c'était les talons de la secrétaire, qui avait fait.
Si on
traite pas ces sols-là,
Parce que même les sols en chêne, tu mets pas de fond de.
Si, quand même.
Ouais. Ça protège. Oui, oui. Ça protège.
Alors pas surtout. Des fois, le musée me dit non, mais là, tu vois, c'est assez dur, on n'a pas besoin.
Pas besoin. Ouais.
Donc on n'en met pas spécialement, mais effectivement.
Souvent, moi, je trouve que le fond dur, ça fait une protection et ça absorbe pas le vernis. Parce que quand on met du vernis ou du vitrificateur ou même de l'huile, en fait, s'il n'y a pas de fond dur, ça absorbe tout. Donc on est obligé de mettre trois fois plus de vernis ou d'huile. Donc c'est une bonne.
Ouais. Moi, je travaille pas. Enfin, j'ai fait une fois l'huile et je ferai plus. Donc, je préfère le vitrificateur.
Ouais, moi aussi. Ouais.
Alors pourquoi ? Parce que déjà l'huile.
Il faut recommencer.
Mm-hmm. Et puis, c'est beaucoup. Je trouve ça beaucoup plus fragile qu'un vitrificateur. Ouais. Ça fait des auréoles.
Et ça fonce aussi. Moi, je trouve les vernis incolores sont beaucoup moins.
Et aujourd'hui, ils ont beaucoup évolué sur les vitrificateurs. Mm-hmm. Et franchement.
Toi, tu ne jures que pour les vitrificateurs.
Alors, moi, j'adore la marque Blanchon.
C'est
vrai. J'adore la marque Blanchon. Mais après, il y a des vitrificateurs professionnels.
Ouais.
Là, tu vois, on a fait un parquet. Alors là, c'est un parquet chiné. Enfin, c'est un vieux parquet qu'on a remis dans un appartement. Et typiquement, le vitrificateur, c'est pas du tout la marque Blanchon. C'est une marque. C'est une marque professionnelle, ils ont fait leur mélange et typiquement, c'est peanuts la façon dont ça fonce.
Ça ne se voit pas du tout.
Presque pas, vraiment.
C'est bien. Ouais. Et tu peux nous parler de ce parquet, donc c'était un parquet ancien qui a
Alors c'est très rigolo parce que la petite histoire, le parquet appartenait à une école ici à Reims, qui est un bâtiment qui a été... Non, parce que cette cliente habite à côté de cette école.
Génial.
Donc je trouve que l'histoire est assez jolie.
Bah, sympa.
Ouais.
Et donc c'était un parquet en sapin.
Non, c'est du parquet en chêne. C'est un parquet en chêne. Alors bah, c'est très très compliqué de poser un parquet qui a été enlevé et de reposer parce qu'il y a énormément de chutes, enfin de dégâts. Il faut refaire les rainures, faut tout trier. Enfin, c'est un boulot de titan. Après, c'est magnifique.
C'est tellement magnifique.
Et c'est surtout que là, sur cet appartement, c'est un appartement qui est très grand. Il y avait déjà un parquet. Donc, ce qui était bien, c'est qu'on a récupéré vraiment le même style que l'autre parquet, la même largeur de lave et tout ça.
D'accord.
Donc, ça, c'était chouette.
Ouais. Et donc, ça, c'est le menuisier qui a fait toute la découpe.
Oui, ça, c'est une équipe. C'était un travail de titan.
C'est un travail de titan et qui coûte souvent 3-4 fois plus cher que de mettre.
Bien sûr, parquet, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord sur le fait que c'est un coût. Après, c'est pas 3-4 fois, mais c'est un coût.
Ouais, c'est quoi ? C'est deux fois ?
Ouais, c'est cher.
Ouais, non, mais c'est cher.
Non, mais aujourd'hui, de toute façon.
C'est pas 3-4 fois, tu vois. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus.
Non. Mais non, franchement, j'étais assez étonnée. Après, le parquet.
Oui, le parquet en lui-même, le parquet coûtait très cher, mais c'est tout le travail qui coûte extrêmement cher.
Alors, bon, sinon, tu t'accordes avec moi de dire à Alex que, que aujourd'hui, les choses, même anciennes, coûtent plus cher que
neuf. Ça, c'est sûr.
Alors que bon, jusque-là.
Oui, mais pourquoi ça coûte plus cher ? Parce que il faut justement déjà aller le chercher. Il faut souvent rénover, tu vois, un parquet ancien. Il faut passer.
Mais c'est pas rénové quand tu l'achètes.
Ah oui, non, mais c'est à l'achat. Il est déjà plus cher le parquet que du parquet neuf. Ah ouais, d'accord.
Je trouve que de toute façon aujourd'hui tout ce que tu chines, c'est plus cher, que ça soit les matériaux, les meubles, est plus cher. La tendance, parce que c'est à la mode, hein, tout ça.
Parce que c'est de la si peu.
En fait. Et il y en a très peu, c'est vrai.
Si demain tu veux mettre un parquet ancien, il va falloir que tu le cherches. Tu ne vas pas le trouver si facilement que ça. Donc il y a tout ça.
Après, il y a des revendeurs de matériaux, mais c'est vrai qu'ils n'en ont pas. Après, c'est en fonction des arrivages.
C'est de plus en plus de revendeurs de matériaux.
Ça c'est intéressant. Bien, c'est super ça.
Toi, tu travailles avec des revendeurs.
Moi, j'ai déjà acheté, chez des revendeurs de matériaux. Bah oui.
Ouais.
Il existe des beaux métiers, tu vois, comme le métier de brocanteur, les revendeurs de matériaux.
Bah oui.
C'est des métiers.
Bah, voilà, c'est clair. qui
heureusement qu'ils sont là. Oui. Alors souvent on me dit, est-ce que vous avez une astuce, quelque chose? Je dis, bah oui, il existe de beaux métiers.
C'est des astuces. Non, alors après,
oui, c'est vrai que sur le Bon Coin, il y a aussi, on retrouve des choses. Après, le problème, c'est que oui, alors sur le Bon Coin, c'est des petits prix, mais il y a aussi, il y a de tout. Et puis tant mieux si on arrive à trouver des choses moins chères sur le Bon Coin, c'est qu'il y a encore des affaires à faire. Il y en a de moins en moins, mais
Oui, et que les personnes qui sont spécialisées dedans, c'est ce que je dis toujours pour justifier mon métier, c'est qu'en fait, il y a tout le travail d'aller chercher, de nettoyer, de transporter, qui a un coût. Mais ça, je pense que la plupart des gens maintenant commencent à l'intégrer. Donc, quand on te suit et tout, t'as vraiment un style et je trouve que tu as su... un peu faire ta marque de fabrique de certaines choses dans la déco qu'on voit maintenant quand même beaucoup, mais j'avais envie que tu nous en parles plus en détail. Par exemple, les rebords dans les cuisines et les salles de bain,
c'est un truc que je fais toujours.
Depuis toujours.
Ah oui, j'ai toujours trouvé ça génial de pas voir les tuyaux de robinetterie. Ouais. D'éviter les saignées pour les électriciens, parce que moi les baguettes c'est absolument pas possible. Ouais. Donc en fait.
Par commodité au départ, tu t'es dit tiens.
De cacher.
Enrober ce qui est moche.
Oui. Et finalement. Mais je te jure, là en ce moment, je suis dans un appartement, il n'y a pas de rebord. Je suis perdue. Parce que je trouve c'est un terrain génial, les rebords, pour deux choses. Un, ça englobe, ça cache toute la robinetterie, les câbles, etc. Donc toute la misère.
Et c'est pratique.
Et c'est un superbe terrain pour mettre de la déco.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Et ça, je trouve ça génial.
Ouais, aussi bien au-dessus d'un lit que dans une salle de bain.
Alors, au-dessus d'un lit, au-dessus d'une salle de bain, dans la cuisine. Ouais. Mais même un peu partout, en fait, j'ai envie de te dire. Même des petits rebords. Enfin, voilà, je sais que c'est quelque chose. Les rebords, je trouve que c'est très utile et
c'est vrai que dans la décoration contemporaine, les choses sont toujours tellement linéaires, etc., que justement d'avoir ces petits volumes pour pouvoir poser des jolies choses que tu chines et tout ça. Ouais, carrément. Alors on a parlé des portes anciennes, donc tu disais que dans la maison vous avez intégré des portes anciennes, mais surtout tu as fait énormément des placards intégrés en utilisant des portes anciennes.
Oui.
Et ça c'est, enfin, souvent dans les maisons, il n'y a souvent pas de rangement. C'est le rangement.
Ben, regarde où je suis, là, il n'y a aucun rangement. C'est une catastrophe. On est d'accord sur le sujet que dans une maison, pour moi, l'important, c'est les rangements. Ouais. On n'en a jamais assez. Ouais. Et souvent, on ne se sent pas bien dans une maison parce qu'il y a du bazar, alors que c'est souvent un gros manque de rangement.
De rangement, oui.
Donc, là, de toute façon, dans cette maison, il n'y avait strictement rien, donc pas de placard. Donc sur la partie des enfants des filles, moi je leur ai créé carrément un petit dressing où elles pouvaient rentrer, et après l'idée c'était que partout de créer des rangements, même le moindre petit rangement,
Mais du coup tu crées des rangements comme ça, même pas si tu as si tu n'as pas une alcôve, même contre un mur blanc, tu crées un cadre et tu intègres des portes anciennes.
Mmh. Oui. Oui, oui. Mais en fait, dans cette maison, à peu près bien.
Goupillé.
Oui, goupillé, j'ai envie de te dire. Il y avait des espaces où il fallait des rangements.
D'accord.
Donc si tu veux, il fallait de toute façon faire des rangements. Okay. C'était pas possible. Okay. De mon bureau, parce que c'était quelque chose que j'avais récupéré sur un chantier qui devait partir à la benne.
C'était des portes vitrées.
Alors en fait, au départ, c'est une structure qui était autour d'une cheminée.
Ah bon?
Et sur le bas, il y avait donc les placards, il y avait des tiroirs, et il y avait ces grandes portes en arrondi, et au-dessus, il y avait une corniche. Donc, j'ai tout récupéré, mais sauf que là, c'était sous 4 mètres de plafond, et que moi, j'avais 3 mètres 20.
D'accord.
Donc, le menuisier, je lui dis, est-ce que tu peux me faire rentrer ça, là? Donc bon, on a éliminé le truc facile, le tiroir.
Le tiroir.
On a enlevé du coup la corniche qui était au-dessus. Et finalement, donc c'est rentré ric-rac le reste. Et ça, c'est un... j'adorais ce truc, vraiment.
Donc, tu as créé des étagères à l'intérieur.
À l'intérieur, on a créé des étagères, ouais. J'avais encore, tu sais, les petits détails. Moi, je suis très détail, mais à l'intérieur, il y avait les... à l'époque, ils avaient dû mettre des petits rideaux. Donc, tu avais les tout petits détails, là, les machins, qui étaient tellement charmants, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins charmant ce qu'on fait dans le commerce.
Ouais,
Ça, c'était... Alors, j'avais pas mis de rideau, mais je trouvais ça tellement charmant.
C'est vraiment joli, donc ça faisait la pièce. Puis après, t'avais ton super joli bureau aussi que t'as créé avec un meuble de métier.
Oui, alors qui est là. Alors, ce bureau, qui était un meuble que j'ai chiné dans un magasin d'une copine qui fermait. Que j'adorais.
Alors, au départ, un meuble de métier.
C'était un meuble de métier et il y avait plein de tiroirs.
Ouais.
Et lui, c'est un peu comme ma lettre géante. Ça fait un moment que je me le trimballe. Le comptoir, je l'ai eu un peu après lui, mais il faisait partie du même endroit.
Ah ouais.
J'avais pas de place. Enfin, je savais pas où le mettre. Mm-hmm. Et du coup, j'avais vraiment envie de l'avoir avec moi. Et donc, j'ai enlevé les tiroirs du milieu et voilà, j'en ai fait.
T'en as fait ton bureau. Ouais. Ouais. Mais il est parti parce que souvent les meubles de métier sont bas, mais il a une super bonne hauteur.
Il a la hauteur parfaite.
Parfaite. Parce que sinon...
Le comptoir, tu vois, est plus bas.
Il est plus bas, Et quand tu fais tes meubles de cuisine, en fait, tu les rehausses à chaque fois. Et même dans la profondeur aussi, en fait, tu utilises que les façades, en fait, quasiment.
Pour le meuble de mercerie que j'avais récupéré, donc non, on a gardé la structure, mais la structure, effectivement, était d'une profondeur de 45, vois, donc on a recréé les 15 au fond, mais moi, ça m'arrangeait bien, parce que j'ai goupillé ça avec le rebord.
Avec le rebord.
Et puis, avec tout ce qui passait derrière, parce que on avait quand même des grosses contraintes de
plomberie,
de plomberie. Mais dans l'appartement, dans cette maison, l'appartement du deuxième étage où j'ai fait la même chose, là effectivement c'est une façade avec des portes.
Mmh.
et un côté, on a recréé le côté aussi.
Et pour revenir encore à qui existait dans cette maison, le sol c'était du béton.
Sur le rez-de-chaussée, alors le sol, c'était une dalle de béton. C'est-à-dire qu'à l'époque, le béton faisait beaucoup moins bien qu'aujourd'hui.
Ouais.
En fait, le sol, c'était de la grève. Donc la grève, c'est un mélange
de gravier, de ciment, plein de trucs.
Voilà, c'est plein de trucs différents.
Ouais.
Et sur une partie, en plus, il y avait c'était un autre béton plus récent. Et une petite différence de niveau. Donc là, c'était un peu la catastrophe parce que le maçon a essayé de nous récupérer le niveau. Et je ne sais alors un truc que je qui ne, notre maçon est à la limite de la retraite, donc un truc qu'il n'explique pas et on ne se l'explique pas. Il a refait deux fois cette dalle et deux fois elle a craquelé, elle a pas tenu. Alors peut-être à cause de la cave en dessous. Enfin c'est pas parce qu'on est dans le métier qu'il nous arrive pas des choses. Donc du coup il a fallu créer une solution de sol. Et moi je focalise tellement sur les sols sur cette partie-là.
Mm-hmm.
Et sur la grande pièce, là on commençait à tirer au niveau du budget. Et en même temps je trouvais ça étonnant ce sol. Cette grande dalle de béton, moi j'aime bien ça le béton.
Tu n'avais pas particulièrement envie de la recouvrir.
Au départ, il fallait faire quelque chose parce que c'était vert. C'est-à-dire que c'était recouvert d'une peinture industrielle verte.
D'accord.
Mais verte,
vert bouteille.
Et non, pas vert bouteille, une espèce de vert clair, vert moche. Enfin, c'était.
Pas beau.
Non, c'était pas très beau. En plus, c'était dégueulasse.
Super joli.
Et donc, la grande question, c'était... on va décaper. Qu'est-ce qu'on fait sur ce sol? Alors, on remet du parquet. Alors, la première solution, bien évidemment, on met du parquet partout. Je suis là, dans cette pièce, je ne voyais pas du tout de parquet dans cette pièce. Ouais. Je sais pas pourquoi. J'arrivais pas... J'arrivais pas du tout à voir de parquet. Mais vraiment, alors pourtant, j'aime beaucoup ça, le parquet, le bois. Alors, Du coup, j'ai dit, bah non, on va décaper le sol. Et moi, je suis allée chercher du décapant. Alors là, vraiment, et j'ai fait un essai. J'en mets partout. Voilà, je fais mon essai. Enfin, je laisse reposer. Et je te jure, il ne se passe rien.
Rien. Bah ça, de toute façon, ces produits-là, il ne se passe jamais rien.
Ouais, mais si, des fois, ça gonfle un peu quand même. Oui. Rien. La peinture ne bouge absolument pas. Ouais. Donc, c'est-à-dire que là, c'était un peu la panique à bord, parce que je disais, qu'est-ce qu'on va faire de ce sol? Et du coup, on a rencontré un type qui a changé ma vie et qui est spécialisé donc, dans les sols anciens, dans les pierres et dans tous ces sols-là, avec qui je travaille aujourd'hui, et qui est venu avec toutes ces grosses machines et en fait qui nous a tout poncé. Et il nous a dit, on va voir ce qu'on retrouve, comment est le sol, ce qu'on retrouve en dessous. Et donc, il nous a tout pensé. Et donc, on s'est retrouvés donc, avec cette...
super jolie...
Mais cette dalle de mélange de tout, mais avec des endroits avec un peu de cailloux, enfin, un mélange. Et puis, de toute façon, là, au niveau du budget, j'étais vraiment ric-rac, vu tout ce qui restait à faire. Ouais. Et lui, il nous a proposé de vitrifier le sol, enfin, de le protéger, de le vitrifier. Et puis que... Et qu'on fasse autre chose quand on aura du budget qui sera revenu. Mmh. Et en fait, finalement, j'ai adoré ce sol. Mmh. Voilà, j'ai adoré finalement.
Et il était fissuré à ce moment-là ou
non, il n'était pas fissuré.
Ouais.
Non, il n'y avait aucune fissure. Enfin,
Donc les fissures sont venues au fur et à mesure du temps.
Oui, alors c'est très bizarre parce que bon, une dalle de béton, on sait que ça fissure. Hein, ouais. Ça, c'est sûr. Alors c'est pour ça qu'on met des joints de dilatation.
Ouais. Mais tu peux expliquer ce que c'est des joints de dilatation? Parce que tout le monde ne sait pas.
Alors, c'est en fait, le béton, on ne peut pas couler une dalle de béton sur 100 mètres carrés si on ne met pas ses... Il faut mettre absolument ses joints.
C'est comme des séparations.
C'est comme ça fait des petites rainures.
Qui permettent au béton de bouger, en fait.
C'est ça.
Pas que ça fissure. Mais
c'est un peu comme le bois, en fait.
Oui, hein, c'est
ça. C'est ça. Mm. Sauf que, bon, le bois, il y en a beaucoup plus que sur le béton.
Ouais, ouais, ouais.
Mais ce qui est très bizarre, c'est que cette dalle, elle était là depuis... c'était 40 ans qu'elle était là, cette dalle. Mm. Donc, elle aurait... J'ai fait venir plein d'experts quand elle a fissuré. Est-ce qu'elle a fissuré? Est-ce qu'il y a eu des gros travaux à côté de la maison où ils ont fait tomber des immeubles et tout ça en fait ces fissures sont apparues en gros jour au lendemain quoi.
Oui, parce que j'allais dire c'était un tremblement de terre ou
donc il y a des immeubles qui ont été détruits à côté non
ça
loin
ça, ouais.
Et donc j'ai fait venir des experts. Alors, bon, je ferai pas de commentaires sur cet épisode d'experts parce que c'est mais bon écoute ces fissures ont été là et il a fallu faire quelque chose parce que moi du coup je trouve mon sol il était tout fissuré donc il fallait le réparer.
Et l'idée est venue comment?
Alors l'idée
donc tu l'as réparé en faisant du kintsugi parce que si jamais il y a des personnes qui ne sont
oui,
pas
alors, oui, alors l'idée au départ c'était que je voyais ces fissures et donc je demande à la personne à l'artisan qui m'avait sur le sol qu'est-ce qu'on pouvait faire pour réparer ces fissures. Donc typiquement il me dit on va remettre du béton, on va repolir,
colmater quoi.
Oui mais et donc il me dit, je lui dis mais ça va faire quoi? Je lui dis si on met du béton, on remet du béton comme les sols en béton ciré au final. Hein. Il me dit on va quand même voir les germants,
les cicatrices quoi.
Les cicatrices. Et à l'époque, j'avais adoré Merci à Paris. Ils avaient fait un appartement.
Ah ouais. Leur appartement. Carrelage.
Voilà. Et ils avaient mis du laiton en fait dans les trous de carrelage.
C'était magnifique.
Et là, dans ma tête, parce que j'avais trouvé ça tellement beau. Ouais. Et bon, bien évidemment, moi, les faïences, elles étaient toutes neuves. Alors, je ne pouvais pas faire ça. je lui dis, mais... Oui, c'est ça. Et je dis, mais on pourrait pas faire ça. Enfin, donc je lui montre la photo de ce truc-là et je dis, on pourrait pas faire ça, mettre du doré au sol pour combler.
Il a dû te prendre pour une folle.
Oui, alors là, il m'a regardé. Mais bon, comme ça, on venait de faire 2-3 chantiers ensemble où on avait créé de vrais sols en terrazzo, j'avais fait faire des trucs un peu de fou. Donc bon, il commençait à me connaître. Mm-hmm. Mais il me dit, et bon, souvent mes artisans ils me disent oui, tout est possible. C'est quand ils me voient y arriver avec mes gros sabots. Et donc, il me dit, oui, écoute, mais il faut que, je réfléchisse. Donc il a réfléchi, ça a pris 6-8 mois quand même.
Ah, oui.
On a fait des tests, oui, après, voilà, chacun a son travail aussi, les artisans.
Et, ouais.
Mais en fait, il a fait des tests, il s'est renseigné à gauche, à droite, on a fait plein de tests, et au départ, moi, ce que je voulais, mais comme mon truc de chez Merci sur la faïence, bon, ça, c'était pas possible.
Ouais,
ça, c'est sur le sol, en fait, parce que le problème, c'est qu'on s'accroche à déjà du béton, et donc, et c'est du sol, et donc l'idée, c'est que ça se jointe entre les deux.
Bien sûr,
ça, c'était pas possible. Donc, on a étudié, enfin, il m'a fait un test, du coup, un jour, il est arrivé, il m'avait fait un test, et j'ai dit, oh, mais c'est bon, on va y aller. Et donc, j'étais trop contente.
Ouais.
Voilà, et j'avais hâte de faire ce sol. Et je ne voulais pas libérer cette maison tant que je n'avais pas fait ce
sol. Oui, parce que ça a été un peu la dernière chose que tu as faite avant de vendre la maison. J'espère que les nouveaux propriétaires ont bien apprécié.
Ah, ils adorent. Ils adorent cette maison. Et le sol, ils ont adoré le sol.
Ça n'a pas bougé depuis.
Non.
Donc après, vous l'avez revitrifié. Donc
on a fait ce mélange, cette semaine de kintsugi
magique parce que magique, vous voyez parce le que, processus.
Oui, parce que en fait au départ, c'était une découverte autant pour l'artisan que pour moi.
Bah,
donc c'est ça qui était je trouvais vachement intéressant. Donc du coup j'ai passé les 3 jours avec lui à faire. Donc du coup il m'avait donné une craie, il me dit bon, il y a certaines fissures qui sont toutes fines, je vais les combler.
Ouais.
Et il me dit, suis celle que tu veux qu'on garde.
D'accord.
Donc j'étais avec ma craie et je dessinais. Enfin, c'est pas que je dessinais, je suivais avec la craie en fait le chemin de la fissure.
Et du coup, vous les avez un peu agrandis.
C'est surtout que on les a agrandis. Donc c'était une découverte pour nous. Mais c'est que le mélange en fait qui est à base de résine, l'idée c'est qu'il faut qu'il rentre
dans
la fissure. Donc il fallait creuser un peu pour faire
pour que ça puisse suivre le sillon.
Ouais, exactement. Donc
peut-être qu'un jour tu le feras sur du carrelage ou
alors j'ai très envie de j'ai challengé un poseur, un menuisier qui m'a regardé avec des grands yeux. J'ai très envie de faire ça sur un sol en bois.
En bois, ouais.
Parce que je sais que c'est pas la même technique, et donc j'ai très envie.
C'est de la résine aussi, non?
Non, c'est pas la forcément. C'est pas la même technique.
D'accord.
Et c'est pas le même. Donc là, je pense qu'on peut faire du laiton sur du bois.
Ah ouais, carrément. Ouais.
Enfin, faut que j'ai missionné. Bon, j'ai demandé ça à un menuisier que j'ai rencontré sur un chantier qu'on fait là, qui avait l'air très ouvert sur des nouvelles choses et sur ce que j'avais fait. Donc du coup je l'ai missionné. Bon, j'ai pas eu de retour encore.
Un jour
s'il m'écoute.
Et donc toutes ces choses que tu as créées, du coup c'est devenu un peu ta patte. Tu continues à faire ces choses là pour des clients. T'as refait des sols en kintsugi pour des clients?
Alors, j'en ai fait. Là, j'ai fait un bar à café ici à Reims.
Ouais.
Donc là, c'était pareil. En fait, j'aime beaucoup les sols, comme tout le monde sait.
Ouais.
Je trouve que c'est la pièce, d'une maison. C'est très très important les sols. Et donc là, dans cet espace, on a récupéré un terrazzo qui était sous des dalles, sur du parc. On a récupéré.
Il était en dessous.
En dessous de. Alors, il était très abîmé. Et il y avait même un endroit où il n'y en avait plus de terrazzo. Donc, on a récupéré le sol. Et sur les fissures existantes, on a fait un kintsugi.
D'accord. Et tu savais qu'il y avait du terrazzo en dessous ou ça a été un peu la surprise?
Non, on ne savait pas. Mais les propriétaires, quand ils ont pris ce lieu, j'aurais dit tout de suite, regardez. Est-ce que vous pouvez découper ou arracher un endroit, une dalle? Mais tu sais, c'était des dalles collées un peu qu'il fallait enlever. Et donc, un dimanche, je me rappelle, il m'envoie un message, il me dit regarde, ça doit être des sols comme t'aimes.
Et
donc voilà, c'était. Mais ça a été un peu la surprise parce que Il a fallu enlever ces dalles.
Pas comment ça allait
vraiment
être,
avec. Ah non, c'était à quoi la bannière pour.
Et vous en avez recréé aussi, parce qu'il y avait des morceaux.
Moi, il y avait un morceau. Alors, je ne sais pas comment c'était possible, mais il y avait vraiment un cratère à un endroit, et donc là, on l'a recréé. Mais alors là, c'est pareil. C'était c'était une première en fait pour l'artisan, pas de faire du terrazzo,
mais de le patcher quoi.
De retrouver les teintes, parce qu'à l'époque, finalement, aujourd'hui, on ne travaille pas de la même façon, bien évidemment. Et donc, on l'a refait à deux fois et on n'a pas encore réussi à bien retrouver le...
Parce que le terrazzo, c'est quoi exactement? C'est du marbre qui a été
alors,
cassé.
À l'époque, ouais. Le terrazzo, c'était un sol un peu de fortune hein, qui était créé avec les déchets.
Ouais.
C'est-à-dire que ça pouvait être du marbre, des cailloux, des morceaux de carrelage qui étaient mélangés avec
du béton. Qui étaient tous découpés en petits morceaux qu'on mettait dans du béton.
Voilà, exactement. Ouais. Et donc aujourd'hui, c'est vachement plus contemporain. Oui. C'est toujours du béton.
Mais c'est toujours du béton.
C'est du béton comme le béton ciré au final, qu'on mélange avec...
Avec
des petits cailloux.
D'accord.
Ouais.
Et donc lui, il a recréé ça, mais du coup, il a essayé de.
En fait, l'idée c'était de retrouver, mais quand lui regardait sur les teintes, parce que finalement, le terrazzo aujourd'hui, on a carrément des nuanciers de terrazzo.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
On choisit ses grosseurs de cailloux, ses couleurs de cailloux, si on veut un peu de vert, un peu de marbre, enfin bref,
c'est
un peu fou.
Ouais.
Mais là, si tu veux, le sol était très foncé et il pensait que la base du sol c'était du béton foncé. Et en fait, je pense que c'était pas si foncé que ça et qu'il y avait en fait, il y avait plus de cailloux blancs. Et les cailloux à l'époque, je pense qu'ils étaient beaucoup plus petits. Enfin, dans ce sol-là. Et donc, et là, le problème, c'est que les cailloux qu'il a reçus par rapport à la projection qu'on avait demandé, parce qu'un terrazzo, c'est un mélange qu'on met sur le sol, et après, pour voir apparaître les petits cailloux et ce dessin, en fait, on ponce. On ponce et après, on polie.
Mm-hmm.
Et en fait, à chaque fois qu'on ponçait, les cailloux n'étaient plus blancs, ils étaient bleutés.
À chaque fois, le blanc avec la machine, quand on passe,
ça devient bleu.
Ah ouais, d'accord.
J'ai ça.
Alors,
au départ, foncé, la deuxième fois qu'on l'a fait, je dis, oh, c'est bon, c'est sûr, j'étais au taquet, j'étais là, allez, vas-y, on y va, ponce, il ponce. Je dis, non, c'est bon, on est quasiment parfait et tout ça. Et on ne sait pas pourquoi.
Et ça change.
Je tourne la tête, il repasse. Pouf, c'était devenu bleu.
Ah là là.
Mais
donc c'était en plein milieu ?
Non, c'est sur un côté.
C'est sur un côté.
Ouais.
Mais
l'idée
c'était de faire comme si ça n'avait jamais existé.
L'idée c'était d'apporter. L'idée c'était aussi que voilà un bar à café, en ce moment c'est des lieux un peu tendance, qui sont toujours dans des endroits très imparfaits.
Ouais.
Et voilà l'idée c'était de créer un endroit un peu tendance, un peu imparfait.
Ouais.
Avec le sol,
il n'y a pas de soucis.
Ouais.
Et tu sens que ton style, il évolue.
Alors mon style, il évolue obligatoirement, il évolue parce que pour moi, si tu veux, c'est le lieu qui donne le ton. Enfin, c'est le lieu qui va m'aider à créer.
D'accord.
Alors. Je ne vais pas te dire que demain, je créerai du contemporain parce que je ne sais pas faire ça. Des portes anciennes, j'en mettrai toujours.
Ouais.
Des meubles, incorporer des meubles chinés à l'intérieur pour faire des cuisines notamment ou autre chose, sûrement que je ferai toujours la même chose. Mais ça sera toujours obligatoirement différent
de ce que tu as fait avant avec une autre, avec d'autres envies, d'autres.
Alors surtout, oui, d'autres envies. Et puis c'est surtout qu'aujourd'hui, je trouve que... ça coûte très cher. Donc faut arriver à composer avec un budget aussi, parce que mine de rien intégrer des portes anciennes, bon ça je le ferai toujours hein, mais c'est un coût. C'est un coût et tout le monde ne sait pas le faire.
Ouais, ça c'est clair, il faut trouver des artisans qui sachent le faire.
Donc, moi j'ai la chance d'avoir un artisan qui sait le faire et qui accepte encore. En ce moment je lui fais faire une bibliothèque pas du tout et là il me dit mais qu'est-ce que c'est que tu me fais faire, moi je préfère le bois, mes trucs anciens. Voilà, il est vraiment spécialisé
là-dedans.
Parce
que là elle est pas en
non, la cliente elle souhaitait une une bibliothèque, enfin c'est un appartement qu'on rénove, on a déjà fait des placards avec des portes anciennes et tout ça, et sur cette bibliothèque c'est quelque chose de plus contemporain.
Ah oui, d'accord, donc c'est pas un style.
Donc effectivement, là...
Mais tu utilises toujours du bois noble, tu n'utilises pas du médium et tout ça, si?
Non.
Jamais tu ferais ça.
Mais justement, le problème, c'est quand je lui dis, mais t'as qu'à mettre du médium si on trouve pas de bois.
Ouais. Et oui, parce que c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a plus de bois maintenant.
Elle me dit, mais qu'est-ce que, de quoi tu me parles?
Bon, nous avons affaire à un puriste, heureusement.
Ouais. Mais c'est la grosse problématique aujourd'hui, c'est les matériaux ou le prix. Alors, il n'y en a pas. C'est la qualité et le prix.
Oui, le prix. Et le prix, parce qu'il n'y en a pas, donc les prix augmentent encore.
Mais
encore,
les prix, parce qu'il n'y en a pas, et que quand il y en a, c'est. Ouais. Enfin, c'est devenu très cher, quoi.
Et donc, cette nouvelle maison, tu es en recherche active.
Oui, cette recherche qui dure.
Ouais, mais tu vas bien y arriver un jour, puisque petit à petit, tu sais de mieux en mieux ce que tu veux, où tu...
Alors, je sais de mieux en mieux ce que je veux, c'est vrai. Mmh. Après, j'ai passé une petite période où il fallait que j'ai eu un gros besoin de réparation personnelle et physique. Mmh. Mais le lieu, je sais exactement ce que je veux comme lieu, mais c'est des rencontres.
Oui, bien sûr. Mais c'est aussi bien la maison. Enfin, tu veux une maison pour toi, pour une maison de famille, pour tes filles, etc. Mais tu veux aussi un lieu que tu pourras développer professionnellement, c'est-à-dire un lieu. Alors moi, comme les pénates, quoi. Enfin, le lieu s'appellera les pénates, mais ta maison, celle qu'on connaît sur les réseaux.
Alors les pénates, en fait, je l'ai vraiment fait évoluer comme un concept. Parce que c'est vraiment mon état d'esprit, c'est un concept. Ça. Effectivement, c'est des maisons où on se sent bien. Parce que comme je déménage souvent, au final, il n'y a pas un lieu qui peut s'appeler les pénates. Et voilà, c'est une philosophie aussi de ces maisons faites avec de l'ancien. Mon idée, c'est que voilà, on s'y sente à chaque fois comme chez soi, qu'on crée un véritable univers où il y a une proposition. Enfin, ça restera. Mais
donc c'est des lieux où tu accueilleras quand même, soit pour des shootings, soit pour.
Alors effectivement, moi j'aime énormément. Je ne sais pas pourquoi, mais comme j'ai beaucoup déménagé et que j'aime les maisons, mais j'aime aussi que les gens soient bien dans ces maisons.
Les accueillir.
Et j'aime faire profiter de ces intérieurs pour recevoir ou pour faire des shootings. Ça, c'est vraiment...
Ça te parle. Donc
tellement belles rencontres que je trouve ça intéressant. Parce que des lieux, il n'y en a pas 10 000, hein, faut pas se leurrer. Hein, des lieux intéressants... toujours avec du volume.
C'est ça, il faut de la place en fait.
Ils ont besoin d'espace parce qu'ils en mettent partout. Hein.
Oui, c'est ça, ils viennent à plein, à 20, 30 personnes, il faut toujours beaucoup, beaucoup d'espace. Donc.
Aussi pour moi personnellement, c'est que mes filles, elles en ont un peu ras-le-bol de déménager sans arrêt. Bon, voilà, maintenant, elles vont bientôt prendre leur envol, mais du coup, j'ai plutôt envie de créer un lieu aussi de recueil de famille.
De lien familial pour que tout le monde se retrouve.
Quitte à ce que ce lieu, je le garde et que j'achète autre chose, tu vois, pour assouvir mes besoins
créatifs.
Mais,
qui vont continuer indéfiniment. Ouais. Et donc, comment tu vois, toi, la brocante et l'ancien dans la déco, dans l'avenir, quoi. Enfin, tu trouves qu'il y a un avenir pour...
Moi, je trouve que déjà, ça a beaucoup évolué. Parce que tout le monde s'est mis à faire de la brocante.
Ouais.
Aujourd'hui, on parle d'éco-responsable, de faire des économies, de deuxième main pour les vêtements. Pas que pour les vêtements, mais ça fait partie d'une philosophie de vie vers laquelle on aspire tous. Et voilà, de moins jeter. Donc,
de réutiliser.
Ce qui change aujourd'hui, c'est que la brocante n'est sûrement plus la brocante qu'il y avait avant, parce que la deuxième main, aujourd'hui, on parle aussi des années 70, des années 80, des années 90. Ouais. Donc,
enfin, en tout cas, la brocante comme nous, on l'a perçoit. Alors, et on l'aime. Et
c'est un ça, il y a beaucoup de choses qui sont parties à l'étranger.
Ouais.
Beaucoup, 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 beaucoup. Donc, on voit bien qu'il y en a de moins en moins.
Ouais.
Et alors, ce qui est très, très rigolo, c'est que je trouve que les tendances s'inversent. C'est que le neuf fait des propositions par rapport à l'ancien, beaucoup moins onéreuse.
Ouais, c'est ça. Copie, y a beaucoup, beaucoup de copies. Et puis,
mais ils font aussi des propositions qui sont intéressantes. Hein. Y a des choses qui sont très intéressantes. Parce que franchement, ça devient très cher quand même aujourd'hui.
La brocante.
La brocante. Ouais. C'est un truc de fou. Alors, sachant que... Là, regarde, on est en train d'enregistrer sur des chaises que j'ai chinées la semaine dernière, une table de briques et de broc. Mais
ça vaut plus cher que certains.
Mais c'est un truc de fou.
Trucs neufs, oui.
C'est un truc de fou.
Ouais, mais souvent ces trucs neufs, c'est fabriqué avec pas des super
bois. Non, on est d'accord.
Si c'est fait par des artisans et avec une très belle facture, on sait à quel point le matériel coûte cher et donc ça. Coûte
après, de toute cher. Façon. Bon, à la brocante, il y en aura toujours. On va changer d'année, mais
oui, c'est ça.
Il y en aura toujours.
Auxquelles on aspire. Mais avant, la brocante, c'était pas quelque chose que tout le monde aimait, donc c'était un peu plus.
Mais on avait beaucoup plus de choix.
Et du coup, on avait beaucoup plus de choix. Ouais. Maintenant, tout le monde veut de la brocante et on a beaucoup moins de choix. Donc c'est plus.
Alors moi, je trouve que la grosse difficulté, c'est surtout pour les meubles.
Ouais. Bah ouais.
Ouais. Les meubles, ça devient quand même compliqué. Quoi. De toute façon, on voit bien sur les déballages, il y a des meubles, il n'y en a plus. Hein.
Ouais, c'est vrai.
C'est très compliqué à trouver des meubles. Hein. Il n'y a plus grand chose.
Non,
il y en a un, c'est ouh là là.
Ouais, ou alors très 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 abîmé. C'est compliqué.
Alors après, moi je récupère, enfin je continue quand même à récupérer quand même des choses chez des gens. Je pense que
quand tu vas pour des chantiers, des choses comme ça, tu as toujours un truc à récupérer.
Oui, sur des chantiers, sur des lieux, mais en fait, il faut aussi regarder. Moi, il y a des gens qui m'appellent, en fait, ils sont trop mignons pour pas jeter, en fait, au final.
Ça, ouais.
Je suis allée pour récupérer des portes, qu'elle allait partir
à la benne.
Les gens, ils savaient pas quoi en faire.
Les
et
fenêtres,
donc, finalement, ils m'appellent et je trouve ça vachement sympa.
C'est sympa, ouais.
L'autre jour, j'ai enregistré une émission de radio, il y a une petite mamie qui m'a appelée, que je suis allée voir. Et donc, j'ai récupéré, elle avait des meubles dans son garage. C'était des meubles anciens et franchement j'adore, et pour faire une cuisine ces meubles ils sont super
génial.
Je vous montrerai ça, ils sont top.
Donc, ta future cuisine.
Exactement, ils sont top, vraiment ils sont vraiment top. Ouais. et donc trop mignonne et voilà, tu vois, du coup
parfois à partir d'un élément ça peut te donner une idée, ça t'est déjà arrivé de créer quelque chose à partir de
Quelque chose que t'as chiné, une verrière ou
là je vais là typiquement pour la si on parle de la maison qu'on connaît et donc la grande verrière qui était dans la pièce dans la cuisine ça c'était quelque chose que j'avais chiné, enfin que j'avais et c'était viscéral. Il fallait qu'elle soit
donc ça c'est la verrière qui sépare la cuisine
cette verrière, elle ne pouvait, il fallait qu'elle soit dans cette maison parce que je voulais la placer quelque part, mais en même temps le challenge était que je voulais la placer et la voir tous les jours. Enfin, je voulais pas qu'elle soit
un peu cachée,
je voulais la voir. Et donc c'était une histoire d'amour avec cette verrière. Franchement, et je l'ai laissée.
T'as dû la laisser.
Oui, alors après le menuisier il me dit mais je vais te la refaire ta verrière. Oui, mais je lui dis c'est pas pareil. Mais donc j'ai quand même bien pris les cotes, les détails, tous les machins. Mais voilà, ça sera jamais pareil, mais cette verrière si j'avais pu repartir avec.
Et c'était quoi l'attachement comment tu l'avais trouvé,
je sais pas, on a toujours par rapport à des objets, des maisons, des pièces, un sentiment, enfin des choses d'attachement, et je sais pas pourquoi.
Mais beaucoup plus avec des choses anciennes ou parfois artisanales. Il y a certaines choses artisanales ou je sais pas.
Oui, malheureusement pour moi, c'est toujours des pièces qui prennent de la place.
Ouais,
tu vois.
Parce que du coup, après, souvent, tu peux pas reprendre.
Voilà, c'est
après.
Pas un doudou ou c'est pas une petite pierre, petit truc. Ouais. Non, tu vois, c'est ma lettre géante que je me trimballe. mais mon comptoir. Mon bureau
et c'est toujours des trucs qui te sens chez toi.
Ah oui.
Ouais, tu as besoin de ça.
Oui. Pour, parce que là, tu vois, je suis dans cet appartement où il n'y a pas beaucoup, il n'y a absolument pas de rangement. Bon, je ne dis pas qu'il est petit, mais voilà, il y a de la place pour nous trois. Mais, mais typiquement, voilà, il a fallu que je mette quand même ma lettre géante, mon comptoir, mon bureau, les miroirs, je n'ai pas le droit de faire de trous, ils sont tous posés là par terre. Mais ils sont là. Ouais, voilà.
Ouais, t'as toutes les choses.
Mes boules de pardon, elles sont là. Voilà, tu vois, les trucs.
Tous ces éléments qui font que tu te sens en sécurité.
Oui.
On n'a pas du tout parlé de ton nouveau projet. Je ne sais pas si tu as envie d'en parler. Parce que je
une maison pour soi.
Ouais. Tu veux en parler un petit peu ?
Alors, oui, ben là, l'idée de ce projet, je pense qu'on va en reparler un peu plus au fur et à mesure, mais l'idée de ce projet, c'est vraiment, je vais faire un parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la brocante, que tout le monde s'est engouffré là-dedans. Mmh. C'est surtout l'idée, c'est de dire qu'une maison, elle nous représente, c'est comme notre deuxième peau, et qu'il faut voilà, s'écouter et vraiment faire des choses de façon plus personnelle.
Mmh.
Voilà, de sortir peut-être des stéréotypes.
Ouais, d'aller forcément essayer de copier ce qui est à la mode, mais vraiment s'écouter.
Après, on peut s'inspirer.
Oui, bien sûr.
L'inspiration, c'est bien, c'est même très bien, obligatoirement.
On
s'est tous inspirés. Mm. Mais c'est s'inspirer et pas copier.
Mm. Et s'écouter sur ses besoins.
Mais c'est surtout qu'aussi, les maisons, ben, quand on est dans une maison, donc elles reflètent notre état du moment. Mm. Et quand on n'est pas bien, je mets un peu l'accent en disant que souvent, là, on n'est pas bien, notre maison, elle n'est pas non plus en forme. Il y a du un peu bazar partout. Ouais. Et je vois très bien que souvent le gros du problème, quand on range, déjà on se sent mieux.
C'est
bête à dire.
L'acte de ranger fait qu'on se s'apaise.
L'acte de ranger. Et donc j'ai vraiment eu envie. Mais alors après, je parle aussi. Ça part d'un projet plus très très personnel. Mm-hmm. Parce que je suis partie vraiment dans l'étude de moi, c'est-à-dire de mes 37 déménagements, machin, de voir. Donc c'est pas une question où je suis instable et pas du tout, mais je sais qu'il y a des explications un peu à tout. Il y a ça et voilà, et d'étudier ces maisons que moi j'adore avec avec leurs histoires j'ai envie d'étudier et avec vous, enfin avec tout le monde, que tout le monde nous partage aussi, beaucoup d'échanges avec sur des expériences, sur des endroits très personnels, ou de comment on crée son intérieur aussi, de comment créer son chez soi, c'est vachement important aussi.
Ouais.
Donc, je trouve que c'est bien d'aller à l'étude de ça je ne dis pas qu'il y a des clés, mais il y a des clés pour pas mal de choses, comme en psychologie.
Bien sûr.
Et j'ai bien envie de mettre en avant, enfin de mettre en place aussi des clés tous ensemble. Et je suis sûre qu'on peut trouver des choses pour qu'on soit mieux chez soi.
Ouais.
Moi, je sais que j'ai divorcé à cause d'une maison.
Qui ne te renvoyait pas.
Où ça a été la catastrophe, où j'ai fait vraiment une grosse dépression. Et on est arrivé à... Donc, je connais cette expérience et j'ai... C'était il y a quand même pas mal d'années maintenant, mais j'ai vraiment identifié tout ça. Et je ne sais pas, c'est grâce à un bouquin aussi que j'ai eu...
Qui s'appelle comment, ce livre ? Alors,
Au cœur des maisons.
Ouais.
Et j'ai l'impression que ce livre a été écrit, j'aurais pu écrire plein de pages, quoi.
Ouais. Waouh, bah c'est hyper intéressant. J'ai hâte d'en savoir un peu plus, que tu nous parle de tout ça.
Bah moi aussi, j'ai hâte d'en savoir un peu plus, je rigole. non, mais c'est vrai. Parler de déco, on parle tous de déco.
Ouais.
Au final, sur les réseaux, on parle tous de déco, mais d'étudier, d'étudier plus en détail l'importance d'être bien chez soi. Parce que la décoration, oui, d'accord, on est tous un peu décorateurs aussi dans l'âme. bah,
ouais, mais mine de rien, la décoration d'intérieur, c'est pas quelque chose qui a toujours été aussi important. La décoration d'intérieur est venue au fil du temps, et c'est vrai que depuis le confinement, tout le monde a pris conscience de la décoration
d'intérieur. Le Covid,
l'importance d'être bien chez soi, mais ça veut dire quoi exactement? C'est pas juste avoir les couleurs qui sont tendance et changer tous les 4 matins de déco. C'est vraiment à comprendre ce qui va faire qu'on va se sentir
bien chez soi,
en paix chez soi et en sécurité
Et puis c'est surtout aussi de dire c'est de pas stresser parce qu'on n'a pas un intérieur
qui est de magazine quoi, ou de Instagram
voilà, instagrammable comme il peut le dire, parce que bon, faut savoir quand même que les intérieurs instagrammables, ils sont tous pas tous, mais ils sont un peu fabriqués pour que ça soit instagrammable, mais
déjà,
mais c'est pas des intérieurs,
c'est pas exactement comme ça, et puis les choses évoluent tout le temps,
les choses évoluent aussi tout le temps, donc et donc, et j'ai découvert aussi bon, ça c'est quelque chose auquel je faisais pas très attention parce que je suis une citadine, mais comme je visite quelques maisons ces derniers temps, là j'ai visité un truc qui était très très intéressant, mais l'extérieur, ça m'a bloqué. Et c'est la première fois que ça me faisait ça, et je trouve ça aussi vachement intéressant d'étudier ça.
C'était quoi, la façade qui t'a, ou c'est les, alors, les alentours?
C'était les alentours. Mais bloqué, le lieu, c'est une ancienne école, c'est des volumes, un truc très intéressant. Mais alors, autour, c'était... ça m'a foutu les jetons. Mm-hmm. Et ça, c'était la première fois que ça me le faisait, vraiment. Mm-hmm. Ce sentiment, et c'est toujours ce sentiment de mal-être.
Mais c'est un sentiment que du coup maintenant tu écoutes beaucoup peut-être.
Ah oui, j'écoute.
Que tu n'as peut-être pas écouté ça aussi, à certaines périodes de ta vie, et que maintenant tu écoutes et tu sais que...
Mais c'est-à-dire que là, pour une fois, j'accepte d'ouvrir mon champ. Moi, j'ai toujours habité dans Bordeaux ou dans Reims. Donc, ou quand je l'ai vécu à l'étranger, dans des grosses villes. Ouais. Donc au final... au final, là, j'ai accepté de me dire que peut-être que pour trouver ce que je cherche, il faut que
t'ailles un peu plus loin,
et puis que finalement, habiter en ville,
ça a plus trop de sens.
Non, ça a plus vraiment non plus de sens. Donc, et donc finalement, je me retrouve à aller visiter des choses à l'extérieur, mais avec le Covid, il y a tellement de choses qui ont changé, d'habitudes de vie qui ont changé, que maintenant, même à l'extérieur, on divise des lots, on se retrouve en fait avec du voisinage, une promiscuité exacerbée. Et là, c'est la première fois où je me retrouvais face à un environnement qui me mettait mal à l'aise. Voilà.
C'est important de prendre ça en compte aussi.
Oui,
c'est très important.
Oui, oui. Et surtout que, je me dis, quand on habite en hyper-centre-ville, on sait qu'il y a du vis-à-vis, on sait qu'il y a le bruit des voitures, on sait qu'il y a un cab qui va passer. Enfin, voilà, c'est... Là...
Tu te sens presque plus vulnérable parce que tu as un ou deux voisins où tu as l'impression que tu es plus en vue.
Mais alors c'était pas que les voisins, tu vois. Les servitudes, le poteau électrique, le truc d'HLM, le logement, le logement social, la vue, les vues... Les vues, si tu veux, en 3D, parce qu'il y en a de tous les côtés. Et là, au bout d'un moment, en fait, t'abasses tellement les côtés que tu peux plus respirer.
Tu dis, avant même de rentrer chez moi,
C'était en plus un lieu que tu pouvais pas fermer.
Ah oui.
C'est très étonnant. Bon. Et ça...
ça sera pas celle-là.
Non, ça sera pas celle-là.
Bon, Annabelle, je crois qu'on a parlé depuis... On parle depuis un long moment. Merci, c'était... hyper intéressant, j'ai adoré, et j'espère qu'on va bientôt se retrouver sur nos lives parce que c'était trop bien ce qu'on faisait.
Oui. On va refaire
Que tu seras à nouveau sur un projet, on se remettra à faire des lives pour qu'on puisse
on va parler faire du neuf avec du vieux, pas plutôt réno je crois sur ça peut-être, mais on va faire du neuf avec du vieux, oui c'est clair.
Merci Annabelle,
merci à toi.
Tiens.
Voilà, j'étais ravie de retrouver Annabelle pour parler de ce sujet qu'on adore toutes les deux, faire du neuf avec du vieux. C'est toujours hyper intéressant de savoir comment elle et son équipe d'artisans intègrent des éléments anciens dans leur déco. C'était chouette de repasser en revue toutes ces choses qu'on a vues sur Instagram et de savoir comment ils ont fait. Alors je vous ai préparé une vidéo avec des visuels de tout ce dont on a parlé, la verrière, les portes et le parquet rénové et son sol en kintsugi. Vous le retrouverez avec toutes les autres vidéos des podcasts sur petitebelette.com, rubrique tuto et conversation. Et si vous voulez m'aider à faire connaître et à développer ce podcast, merci de relayer l'info sur les réseaux et de mettre des étoiles sur les épisodes pour faire connaître le podcast sur les plateformes. À bientôt et merci.